Bonjour, merci. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs du Capitole du Libre et puis particulièrement à Académie FR de m'avoir invité. Je suis d'un naturel relativement optimiste, peut-être un peu trop, parce que résumer 20 ans de vie informatique, dont plus de 18 passés en interaction avec les logiciels libres, n'a pas été un petit challenge. Donc je vais concentrer essentiellement l'exposé sur certains points clés qui me semblent importants, et puis qui, je l'espère, si vous n'êtes pas encore impliqué dans les mouvements du libre, à vous offrir une porte d'entrée et puis vous y sentir mieux. Alors, désolé, KDE Connect. Alors moi, ma carrière a démarré il y a un peu plus de 20 ans, diplômé, début de du démarrage de consulting informatique, certifié chez Microsoft en tant que système ingénieur sur les plateformes NT351, NT4. En fait, en 1998, on décide de créer une société de conseil informatique et de l'établir dans le Jura suisse. Et en fait, c'est là que l'intérêt par rapport au logiciel libre a commencé. On a créé la société, il nous fallait un certain nombre de logiciels au niveau gestion serveur, gestion réseau, base de données, script de langage, etc. Et donc, effectivement, si vous créez une société, ce que vous avez en votre possession doit être légal. Le logiciel libre était un moyen d'obtenir effectivement tous ces logiciels de manière légale, ce qui était le plus important pour nous à cette époque. C'est quand même 2 millions de francs suisses et 3 ans de prison en cas de détention de logiciels non détenus légalement. Donc voilà, en fait le besoin, mon besoin primaire était couvert, eux me l'offraient, c'est parfait. Je deviens utilisateur et en fait il faut très très peu de temps pour que j'en devienne promoteur. Ça marchait bien, c'était super, particulièrement même sur des OS non propriétaires. Et donc, en fait, ça a été, on va dire, le premier retour vers les communautés du libre. En termes de points clés, je dirais, commencez par identifier votre besoin primaire le plus important. Que ce soit un logiciel de dessin, que ce soit des données libres, telles que Wikipédia, OpenStreetMap ou n'importe, commencez par ce que vous avez le plus besoin, puisque c'est là que vous allez avoir le plus à y gagner. À partir de là, vous allez rentrer en interaction avec une communauté, faire des expériences de communication et d'interaction. Et puis vous verrez qu'il se passera peu de temps pour que vous commenciez à vous intéresser peut-être à un autre besoin. Commencez par les satisfaire ceux-là. En fait, c'est un besoin primaire, quelque part, de trouver un chez-soi. Un endroit où on va se sentir bien, on va se sentir à l'aise. Et on va avoir des affinités culturelles, linguistiques, autres, avec différentes personnes. Grosso modo, dans les communautés du libre, on va à peu près tous partager les mêmes valeurs. Toutefois, je dirais que c'est au niveau de l'implémentation de ces valeurs-là qu'il y a quelques subtiles nuances. Pour ma part, en 2005, je me prends un peu le bec avec le maintainer du paquet pur FTPD chez Debian. Le paquet, à l'époque, n'a pas l'option pour servir les gros fichiers de plus de 4 gigas. Bon acteur, j'ouvre un bug et demande l'option dans la compilation. L'option existe upstream. Réponse du maintainer, je ne vois aucune raison d'activer cette option. C'est Debian, c'est 2005, le maintainer est Dieu sur le paquet, fin trans. Moi, à l'époque, j'en voyais une de raison. C'était l'apparition des premiers DVD, qui font 4,7 gigas. On en avait besoin pour les mettre à disposition des utilisateurs. Vous me direz, c'est pas grave, c'est du logiciel libre. On prend les sources, on les recompile un petit peu comme on a envie, et puis voilà. Oui, sauf qu'à cette époque-là, quand même, quand je commençais à avoir plus de 60% de ce que j'avais besoin, qui devait être forqué, changé, recompilé et installé, ça commençait à devenir un petit peu lourd. Moi, pas très content, moi, va voir ailleurs. Alors en fait, cette attitude de « va voir ailleurs », on la rencontre assez fréquemment chez les nouveaux venus dans les communautés libres, particulièrement si vous êtes dans une communauté qui s'occupe d'une distribution, donc qui package un grand nombre de logiciels pour des utilisateurs finaux. L'utilisateur va essayer votre distribution, va être très content, il y a des choses qui marchent, puis tout d'un coup, il va tomber sur quelque chose qui ne marche pas. Puis là, il va dire « Ah, c'est pas bien !» Puis en fait, on va lui conseiller, hein, il va tomber sur un ami qui va lui dire « Ah oui, mais là, chez moi, ça marche !» Donc il va changer complètement de distribution, réinstaller tout un OS. Super, ah, ce qui ne marchait pas marche. Ah oui, mais tiens, il y avait un truc qui marchait là, qui ne marche pas. Je vais en essayer une autre, etc., etc. Donc il faut un certain temps pour qu'en fait le processus d'interactivité en fait, avec la communauté dont on est en train de commencer à s'en faire une amie ou à rentrer en communication, en fait, pour que ça rentre dans l'habitude, de se dire, mais en fait, au lieu d'essayer de tout changer à chaque fois, de pouvoir commencer à s'intéresser à quelque chose. Pour moi, en fait, le début de mes contributions, ça a été énormément au travers de bug reporting. Je viens d'un profil technique, donc effectivement, c'était un peu plus facile pour moi que, on va dire, que pour quelqu'un d'autre qui viendrait d'une filière philosophique, artistique ou quelque chose comme ça. Au départ, bien sûr, mes premiers rapports de bug, ils étaient clos, won't fix. Pas drôle. Pire, ils étaient ignorés. Rien. Rien se passait, le bug, il n'avait pas l'air intéressant. Et donc c'est vraiment petit à petit que j'ai appris en communiquant avec les développeurs, en retravaillant les documentations, en réapprenant moi-même à dire, en fait, commencer à faire des jolies traces que eux pouvaient comprendre et que eux allaient pouvoir en fait faire quelque chose. Du coup, le moi commençait à y gagner une amélioration de logiciel et des effectivement ces améliorations. C'est à ce moment-là, en fait, qu'émerge le premier sentiment de dire « je commence à faire partie de quelque chose ». Le « nous » va commencer, en fait, à émerger. Alors, en termes de points clés, je dirais que, quelle que soit la communauté à laquelle vous allez vous confronter, ou en tout cas, on va dire plutôt interagir avec, ça va être essentiellement commencer par trouver les canaux de communication principaux. Certaines communautés sont plus actives sur des mailing lists, d'autres sur des forums, d'autres sur IRC, voire un mélange un peu de tout ça, en fonction des groupes et des utilisateurs. Essayez de trouver des personnes clés. Ces personnes clés vont être très importantes parce que vous allez les trouver par affinité culturelle, vous partagez la même langue, les mêmes intérêts ou des choses comme ça. Mais ces personnes clés dans la communauté vont être celles qui vont vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier, vont vous permettre de collaborer de manière encore plus efficace, trouver les bonnes personnes à qui parler d'un problème ou de quelque chose de bien. Alors moi, en fait, dans la période 2004-2010, j'en ai fait énormément, effectivement, des bug reports chez OpenSUSE. Et c'est en 2009 que NovelSUSE décide, en fait, de créer OpenSUSE. Donc OpenSUSE, en termes de communauté, est très très jeune. On a encore des bébés par rapport à certains autres. Et donc, effectivement, l'idée était de partager le produit qui était au départ la distribution dans un projet plus vaste d'outils autour d'une distribution, avec une communauté. En février, c'est aussi mon premier FOSDEM, et sur le stand de SUSE, en fait, je bave. Monsieur, on fait comment pour en avoir un ? Faut avoir contribué, fait quelque chose. Les rapports de bugs, ça compte ? Oui, tout à fait. Voilà ma liste. Tiens, mon petit, tu pars avec. Je vous passe l'effet euphorisant, puisqu'en fait, à ce moment-là, eux et moi, ça devient un nous. Il y a quelque chose qui dit « j'en fais partie, ça y est, je suis dedans ». Et quelque part presque reconnu pour ce que j'ai fait. Et donc effectivement, au retour de ce FOSDEM-là, je vais m'impliquer de plus en plus dans le projet OpenSUSE, dans les mailing lists, dans les bugs. La première conférence démarre en octobre, j'y suis forcément. Ça recommence l'année suivante, etc. C'est parfait, ça m'a amené au board l'année passée en élection. Donc... on peut dire je suis vert dedans et dehors. Mais le nous, bah, y a des jours avec et puis des jours sans. Il y a ces jours où on a ce grand sentiment de solitude, des fois d'incompréhension. C'est des échanges entre humains, donc ça ne peut pas être juste toujours tout rose et toujours tout facile. Hier soir, c'était une micro-révision. C'est la troisième nombre qui change. Pas un gros update. On est des geeks, quoi. Je vous propose un update, on l'installe. Ouais, mais là, c'est lundi matin. Puis le client, il piaffe au téléphone. Le mail, il en a besoin. Ouais, mais Kamel, il veut pas. Il dit, Kamel, ce matin, il veut plus du tout. Kamel, là, il me l'est. Il y a des lundis comme ça. Je ne suis pas certain qu'il y avait quelqu'un de plus énervé que moi contre Kamel 2. Mais nom de Dieu. Mais qu'est-ce que eux m'ont encore fait ? En fait, jusqu'au jour où, au travers d'une discussion avec Myriane Schwemm-Gruber, ma Maroc pour les intimes qui la connaissent, où elle m'explique qu'en fait, derrière Kamel 2, il y a Laurent Montel. C'est eux, sans le X, quoi. Là, moi, rechange d'attitude, c'est-à-dire, non mais là, c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose pour ce logiciel qui normalement est utilisé par des milliers, on va espérer des millions de personnes, il faut vraiment réussir à trouver comment lui faciliter la vie, comment faire pour que, en fait, il y ait un dynamisme derrière et ne plus en fait se focaliser sur une personne. Comment on va, nous, pouvoir remettre en route le modèle de collaboration. Ce qui fait qu'en fait, un dimanche après-midi, sur IRC, ce changement d'attitude va me permettre en fait, de pinguer Laurent en lui disant « En fait, Laurent, ça t'embête pas un petit peu ce dédoublement des destinataires quand on essaye d'écrire un mail ?»« Oui, oui, je suis au courant. » C'est fait exprès, j'ai voulu être sûr qu'on n'en rate pas. C'est sûr, là je peux pas moi, hein, j'en ai 6. En fait, un quart d'heure plus tard, avant même que je puisse lui demander si vraiment il voulait un numéro de bug pour ça, le guide commit apparaît sur la ligne IRC, le problème est réglé. Nous c'est quand même vachement mieux quoi. Donc nous, en fait, on le voit, c'est pas de l'inné. C'est rarement complètement acquis. C'est un petit peu comme l'éveil. L'essentiel, ça va être dans la maîtrise de notre côté mammifère instinctif, celui qui a toujours un petit peu envie d'en découdre avec les autres. Je dirais que quelques pistes, une ouverture d'esprit sans faille, ça va être assez nécessaire. On a besoin d'un petit soupçon d'humilité parce qu'en fait, il y en aura toujours un plus doué. Puis je dirais, moi, qu'une bonne dose d'humour permet de faire passer énormément de choses et d'en dédramatiser un grand nombre d'autres. Après, ben, il faut les manches retroussées parce que, d'une façon ou d'une autre, le boulot il va devoir être fait, quoi. Alors, un des exemples que j'aime bien, c'est en fait, où du nous avec du nous fait encore plus de nous. On a eu, il y a un certain temps, un problème assez furieux entre KDE, Qt et PostgreSQL, où les séquences d'échappement de texte étaient complètement pourries. Ce qui nous empêchait d'utiliser PostgreSQL avec KDE, Qt et surtout Aconadic à mail. Donc en fait, un des experts PostgreSQL, Cédric Vimin, qui est présent ce week-end, donc vous pouvez aussi aller voir son talk, va rentrer en interaction au travers du Bugzilla de Qt et KDE avec les développeurs pour en fait leur expliquer la bonne manière de faire avec PostgreSQL. Mais ça ne va pas tout seul. Ça va prendre un certain nombre d'allers-retours jusqu'à temps qu'en fait chacune des deux parties comprenne à qui elle a vraiment affaire et qu'en fait la résolution la meilleure pour l'ensemble des deux communautés est là. Donc voilà. C'est de l'humain, ça prend un peu de temps, il faut de la reconnaissance, mais bon, le fixe, on l'a eu, ça marche très bien. Un des autres exemples que j'aime bien, d'interaction comme ça, où en fait, c'est Un jour en production, je devais placer un nouveau map server chez un client et pas moyen. Quelle que soit la compilation, map server segfault. Je leur remets la trace en fait sur GitHub et par chance Thomas Bonfort est là sur IRC. Je lui dis Thomas, tu as une idée? Pourquoi tout d'un coup il me fait ça? Le temps que je lui ramène le numéro de bug sur IRC, il me dit tu peux essayer le patch qui est attaché? Oui, bien sûr. Je prends le patch, je recompile, je déploie, ça marche. Il s'est passé en tout 18 minutes. Ce jour-là, le client aussi a particulièrement apprécié la force du nous. Surtout quand il le compare au prix qu'il paye sur certains logiciels propriétaires. Et puis, si vous voulez, il y a le nous puissance nous. Donc si vous voulez véritablement sentir le pulse du nous, je vous invite en février à Bruxelles. Ça se passe tous les premiers week-ends de février, donc cette année c'est le 31 janvier, 1er février, à l'Université Libre. C'est quoi le FOSDEM? Le FOSDEM, c'est plus de 5000 hackers du monde entier qui vont, en l'espace d'un week-end, se rencontrer, collaborer et fabriquer du nous à la puissance nous. Essayer de décrire l'ambiance du FOSDEM, c'est un petit peu comme si vous alliez à un concert, sauf que là, il y a 8000 musiciens. Donc voilà, si moi, eux, vous donne l'envie du nous, moi on serait ravis. Et si un petit bout de vous nous permettait de faire encore plus de nous l'année prochaine, on serait d'autant plus contents. Donc je vous invite à vous rendre sur la page home de KDE. Il y a un appel à dons pour la fin de l'année. C'est important pour la fondation KDE, c'est important pour le logiciel libre, qu'on ait l'argent nécessaire pour organiser des rencontres comme aujourd'hui, des rencontres comme Académie, des rencontres comme Randa, de manière à pouvoir effectivement développer encore plus les logiciels dont nous avons besoin. La fée, c'est copyright Michael Mix. J'aime le concept. Voilà, donc, c'est la fin de la mienne de présentation, mais ça n'est que le commencement de Capitole du Libre. Dans quelques minutes, Timothée va nous inviter en tant qu'utilisateur finaux à découvrir les premiers pas de comment contribuer à KDE, suivi très peu derrière par Franck Areco pour la partie développeur. Entrez donc dans la danse. Question, je vous en prie.
Tu feras FOSDEM de l'année qui vient?
Ah ouais. Oui, depuis 2009, en fait, j'en ai pas raté. Hein, quoi. C'est à la limite de la drogue. On se dit, une année, il faut que j'y aille pas pour mieux ressentir l'année suivante. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est véritablement un lieu magique et unique, quoi.
Et c'est une notion d'échelle, quoi.
Ouais, c'est absolument hallucinant de voir autant de gens. Alors, en fait, il n'y a pas de heure, alors qu'on sait que. On a des guerres très violentes sur des mailing lists, sur des choses comme ça. On a vraiment l'impression que c'est la guerre de tranchées. Ce n'est pas le cas au FOSDEM. Alors, il peut y avoir des petits heurts, des mots, etc. Mais c'est... c'est vraiment fait pour faire avancer les choses, quoi. Alors que, ouais, je veux dire, même Lénard, il peut se promener là-bas sans prendre plein la tête. Hein, donc, non, en vrai, c'est impressionnant. Et c'est ça qui est bien, quoi.